au réseau Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine.
Il est 10h32. Non, 10h, voyons donc. Mais voyons donc. Il est 8h32 minutes en ce dimanche matin. Et Thérèse, tout à l'heure, demeurez à l'écoute. On a des auditeurs et auditrices qui partagent leur expérience de commerce en ligne et d'achat en ligne. Alors, gardez ça pour après notre prochain invité.
Il y a des gens qui ont des regrets, mais il y en a d'autres qui nous font des suggestions de sites pour aller vérifier les prix.
Et oui, si vous vous demandez, je paye-tu trop cher, c'est-tu vraiment un solde, on va vous donner un site à vérifier. François Gagnon, bonjour.
Mes hommages, t'avais hâte de terminer aujourd'hui.
Ben non, jamais. Mais non. Non, je ne sais pas pourquoi.
Alors
là, c'est incompatible avec notre sujet du jour. On parle du commerce en ligne, des achats en ligne et surtout des gens qui mettent trop de choses dans leur panier électronique et qui, sans s'en apercevoir, pèsent sur passer la commande.
Ça m'est arrivé une fois, moi.
Ben, moi, ça m'est arrivé aussi. Thérèse aussi.
Oui,
j'ai commandé deux fois la même affaire. Coudonc, ça arrive, puis t'as deux fois sur ta carte de crédit en plus.
Et as-tu remarqué que ça t'arrive pas trois fois?
Non, du tout. Ça t'arrive bien qu'une fois, ça, cette affaire-là. Surtout que c'était une bebelle qui était quasi inutile, là. Puis je l'ai commandé en double.
Un autre. C'était quoi? Écoute, on le demande. Moi, j'ai acheté une clé à molette à 9,99 $. C'est le solde du siècle, une clé à molette. Et non, elle ne fonctionne pas.
C'est un bidule pour mon aquarium, tu sais, t'en as besoin rien qu'un, là. Mais là, t'en commandes deux, là, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là? C'est bon à peu près pour 10 ans, ça.
Oui, c'est ça. Alors, ben ça, c'est incompatible avec l'épargne.
Ah, non, du tout. Ça s'appelle des dépenses futiles.
Ouais.
Tout à fait. Et déjà, hier, l'idée m'est venue ce matin d'en parler, là, surtout à l'approche, au cours de la dernière année, les gens ont épargné quand même pas mal. Puis, tu sais, en moyenne, là, je regardais les statistiques, là, ils ont épargné en moyenne près de 6 000 $ chacun, là, pour chaque Canadien. C'est sûr que les personnes avec plus faibles revenus ont moins épargné, là, mais ceux à gros revenus, là, tu sais, t'avais pas de dépenses, t'avais rien. Puis là, il s'agit de savoir. Puis là, les gens prennent de plus en plus conscience que la pandémie a amené certains questionnements. Est-ce que tu veux, à ta retraite, aller en RPA, donc en résidence personne âgée? Là, de plus en plus de personnes disent « ça me tente moins. Mm-hmm. Fait que je veux rester avec ma maison ou avec mon condo, puis je veux finir mes journées là. » Donc, ça va amener aussi des services de soins de santé, donc des assurances supplémentaires. Là, il y a des coûts supplémentaires qui se rajoutent au fur et à mesure où tu veux rester à la maison. Alors, donc, les gens commencent à planifier ça de plus en plus. Puis il y a une grosse majorité qui ont commencé à se questionner, est-ce que je vais avoir assez de sous pour être capable de suffire à mes besoins lorsque je prendrai ma retraite? Tu sais, il y a 88% des Canadiens qui ont commencé à se poser la question. Et là-dessus, tu as plus de 80% qui ont dit, ben là, faut que je prenne mes finances en main. Alors, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour être capable d'arriver à la retraite et avoir un revenu disponible qui suffisant pour être capable de rester à la maison puis suffire à mes besoins en termes de santé. Alors, c'est sûr et certain que si tu commences à épargner pour ta retraite à 40 ans, tu vas arriver en retard à 65. Ça, c'est clair. Alors, le truc, c'est d'être capable d'éduquer nos jeunes, puis les jeunes prennent de plus en plus conscience aussi. Malgré qu'ils ont beaucoup dépensé, les moins de 35 ans, là, quand on regarde 20-35, là, c'est eux qui ont la plus grosse part des hausses d'hypothèques. Ça veut dire des premiers acheteurs, ça, habituellement, et qui se sont endettés peut-être un peu plus que d'habitude. Quand c'est à autour de plus 110 milliards, c'est 28% des hypothèques qui ont été contractées au cours de l'année 2020 par les jeunes de moins de 35 ans. Alors, on voit là que... Mais, tu sais, regarde, une maison, moi, je calcule pas ça comme une dépense, malgré que...
C'est
pas une dépense, mais vas-y avec tes moyens, par exemple.
Ben, on verra dans les prochaines années, parce que là, nous sommes dans une surenchère dans le monde de l'immobilier. On verra dans quelques années, parce que si la tendance se maintient, mais ça veut dire que vous avez fait quand même un bon investissement, mais il faudrait pas qu'il y ait une espèce d'effondrement des marchés immobiliers.
Mm-hmm. Mais ce qui est dangereux dans toute cette histoire-là, c'est qu'on a emprunté à très bas taux d'intérêt. Tu sais, on est capable d'emprunter encore à 2,2 %, là. Et même peut-être légèrement en bas de ça si on fait affaire avec des courtiers hypothécaires et qu'on a une bonne cote de crédit. Mais il n'y en demeure pas moins, Paul, que tu le sais, si jamais les taux commencent à augmenter et qu'on se retrouverait avec des hypothèques normales, là, on vit une période anormale depuis déjà quelques années, mais un jour, ça va nous rattraper avec des taux d'intérêt de 5-6 %, ne serait-ce que 5-6 %, ça veut dire une augmentation de 3,5 à 4 % de ton hypothèque, là, ça va faire mal.
Alors, une question que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils atteignent ou qu'ils approchent de l'âge de 60 ans, devrais-je prendre mes prestations de régie des rentes du Québec, la RRQ, à 60 ans ou reporter au maximum l'encaissement de ce régime de retraite?
Il y a deux façons de penser là-dedans. C'est pas fait pour tout le monde, il faut que tu fasses tes calculs. Il faut faire ses calculs comme il faut. Si tu es capable de gérer ton argent et que tu n'as pas besoin de ta régie des rentes, tu peux la sortir à partir de 60 ans et les mettre directement dans ton REER, à condition que tu sois capable d'avoir un rendement supérieur à celui de la régie des rentes. Parce que la régie des rentes, elle, est indexée au coût de la vie. Écoute, la dernière année, là, c'était 1 % d'augmentation. C'est pas le mer à boire, là. Mais si tu es capable de faire 6-7 % avec de rendement, avec ta régie des rentes, ça vaut peut-être la peine de le retirer à partir de 60 ans, surtout si tu as l'intention de continuer de travailler jusqu'à 65, au moins minimum. Alors, tu sais, quand tu le retires au minimum, tu sais, il y a quand même la pénalité de 36 % à 60 ans. Tu sais, tu vas avoir 64 %.
Oui, tu peux placer ça dans un CELI aussi.
Oui, mais là, c'est parce que là, ça, dans le CELI, ça va être après impôt. Alors que si tu transfères dans ton REER, t'as zéro impôt à payer.
C'est vrai.
Et si tu le retires et que tu le déposes de façon systématique dans ton REER et que ton REER te profite à 5-7 % par année, comme normalement, là, tu devras, avec un bon planificateur financier, tu devrais être capable d'aller chercher ça, surtout par les temps qui courent. Ben, tu sais, ton 45 000 $ que tu vas avoir retiré pendant tes 5 ans. Va fructifier et tu vas te retrouver à 60-65 000 assez rapidement. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Alors, si vous pensez avoir une espérance de vie réduite, oui, ça vaut la peine. Si vous avez des faibles revenus et que vous êtes un candidat au supplément de revenus garanti à 65 ans, là aussi, ça vaudra peut-être la peine. Mais pour les autres, faites votre calcul comme il faut avant de penser à prendre votre régie des rentes à 60 ans. L'idéal, ce serait peut-être 62, là, parce que faut quand même penser que c'est à peu près 7 % par année. Là, hein?
Ouais.
Alors, 7 % par année de pénalité, ça commence à paraître beaucoup.
Merci beaucoup, François, et bonne semaine.
Ben, toi aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.